Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 9 novembre. Ce soir encore, notre équipe est à pied d'œuvre et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié, et ces bruits seront politiques. Tout d'abord avec le journal de Maë et François René, puis la revue de presse de Marie, et puis l'édito économique de Robin. Après quoi, nous passerons à des bruits culturels et puis aussi scientifiques dans la deuxième partie de l'émission, avec le journal de la culture de Léa et Sarah, puis le billet scientifique qui vous sera présenté pour la première fois par Pierre, et puis nous terminerons avec l'actualité de la radio. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Maë et François René. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Rémi.
Le National d'abord. Le quinquennat de Macron ne sera pas marqué comme promis lors de sa campagne par une baisse du nucléaire à 50% d'ici 2025. Nicolas Hulot s'est exprimé à ce sujet mardi. Alors qu'il avait envisagé en juillet le projet réalisable, au rythme de 2 fermetures de réacteurs par an, il est revenu sur la question. Le ministre de la Transition écologique et solidaire estime que réduire autant la production d'électricité par le nucléaire se ferait au détriment de nos objectifs climatiques. Et ce, en raison des alternatives proposées au nucléaire qui ne sont autres que des très polluantes centrales à charbon ou au gaz.
Hulot a déclaré préférer le réalisme et la sincérité à la mystification.
Et on peut en l'occurrence s'interroger sur la sincérité des deux derniers présidents qui avaient fait cette promesse de baisse du nucléaire en France, à savoir Hollande et Macron. À l'Assemblée nationale, on discute la question des frais devant être défrayés pour les députés. Les questeurs ont présenté aujourd'hui une première liste de défraiements qui devraient être autorisés ou non au 1er janvier prochain, où la législation devrait changer sur le système d'avance accordé aux députés. Jusqu'alors, chaque député recevait 5 840 euros par mois qu'il pouvait utiliser à sa guise sans avoir à se justifier. Ils devront donc désormais fournir des justificatifs. Le parquet de Paris a ouvert une enquête lundi préliminaire pour menace de mort et apologie publique d'un acte de terrorisme à l'encontre de Charlie Hebdo. Dans son édition du 1er novembre, le journal satirique avait publié une caricature de l'islamologue Tariq Ramadan, récemment accusé de viol.
On le voyait représenter une impressionnante érection déformant son pantalon avec au-dessus de lui inscrit « Viole la défense de Tariq Ramadan, je suis le 6e pilier de l'islam ».
C'est cette une qui a déclenché des commentaires haineux et menaçants sur les réseaux sociaux. Le dessinateur Riss, à la tête de Charlie Hebdo, a précisé que les menaces n'avaient jamais vraiment cessé, mais que parfois elles prenaient, comme dans ce cas, une ampleur inquiétante. On rappelle également que Tariq Ramadan, visé par de nouvelles plaintes pour viol, a quant à lui été mis au congé de l'université d'Oxford ce mardi. Nouvel échec pour la Commission européenne qui a tenté une nouvelle fois aujourd'hui de voter le renouvellement de la licence du glyphosate pour une durée cette fois de 5 ans. Le vote n'est pas parvenu à dégager une majorité qualifiée. La France a voté contre, comme le rappelle Nicolas Hulot, fier d'avoir tenu bon contre un renouvellement de plus de 3 ans.
Alors que la licence de l'herbicide, classée cancérigène probable, expire le 15 décembre.
Exactement, si la Commission européenne ne trouve pas de solution d'ici là, on assistera non pas à la suppression du glyphosate dans la production agricole européenne, mais à une décision unilatérale prise par Bruxelles. Les Paradise Papers, à présent sujet qui fait l'actualité toute cette semaine.
Et oui, un an d'enquête, 13 millions de documents épluchés par 96 journaux issus de 67 pays. Et chaque jour de nouveaux noms apparaissent, des hommes d'affaires, Serge Dassault, Bernard Arnault, des multinationales, Apple, Nike, Uber, Total, des artistes comme Bono, Shakira, mais aussi le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross, qui est un proche de Donald Trump, ainsi que Stephen Bronfman, ex-trésorier de la campagne du Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Et quelle est la réponse des intéressés quand on leur demande si c'est vrai ?
Alors c'est toujours la même, tout cela est parfaitement légal. Finalement, les paradis fiscaux, c'est un peu comme jouer à chat perché. La souris court pour échapper au chat, saute sur un banc, enfin, comprenez, sur un paradis fiscal, et s'exclame « Perché !» Eh oui, plus le droit de me toucher. Mais vous savez, pour que le jeu reste dynamique, les souris ne doivent pas rester perchées tout le temps au même endroit. Il faut courir d'une cachette à une autre sans se faire toucher. Et il y a des souris très douées pour ça. Prenez Bernard Arnault, première fortune de France. Pas moins de 6 paradis fiscaux. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, surtout quand on a beaucoup d'œufs. Un ton plus sérieux maintenant encore que avec le voyage de Donald Trump en Chine. Le président américain a signé aujourd'hui pour un montant astronomique de 250 milliards d'accords commerciaux avec la Chine, même si certains de ces accords sont non contraignants.
Un petit exemple peut-être ?
Oui, alors parmi les principales entreprises qui ont rempli leur carnet de commandes, Boeing, qui a signé en Chine un accord portant sur l'achat de 300 appareils pour un prix catalogue total de 37 milliards de dollars. Donald Trump, nous avons un déficit commercial colossal avec la Chine, les chiffres sont choquants, a-t-il indiqué de façon toujours directe comme ça lui ressemble, et il espère, je cite, fonder un avenir économique commun plus équitable. Rappelons que sur les 10 premiers mois de l'année, l'excédent commercial du géant asiatique vis-à-vis des États-Unis s'élevait à 223 milliards de dollars. Autrement dit, les États-Unis achètent infiniment plus à la Chine qu'ils ne vendent à cette même Chine. Toutefois, cette dépendance à l'égard de la Chine est aussi une interdépendance, puisque les États-Unis représentent logiquement le premier marché où les entreprises chinoises écoulent leurs produits. Il y a donc certes rivalité économique entre les deux géants, mais aussi souci commun que l'autre reste économiquement dynamique. Trump a d'ailleurs voulu la jouer ouvert et sympa envers Pékin. Je cite « Qui peut reprocher à un pays de profiter d'un autre pays pour le bien de ses citoyens ?»
Mais Trump n'est pas venu que pour ça quand même.
Et non. Il est également là pour des visées plus traditionnellement géopolitiques. Il a agrémenté sa tournée asiatique de tweets traditionnellement véhéments, comme à son habitude. Et il a pu s'entretenir avec ses alliés dans la région, japonais et sud-coréens, concernant le cas nord-coréen. Et il a tenté de convaincre Xi Jinping de lâcher la Corée du Nord sans qu'on sache vraiment ce que ça a donné.
Un tournant conservateur en Autriche.
Oui. Secrétaire d'État à l'âge de 24 ans, ministre des Affaires étrangères à 27 ans et bientôt chancelier à seulement 31 ans. Côté jeunisme, voilà de quoi faire de la concurrence à Macron. Sébastien Kurz, le chef du parti chrétien conservateur, a mené son camp en tête des élections législatives en Autriche le 15 octobre avec 31% des voix. Depuis, il négocie une alliance de gouvernement avec l'extrême droite qui a atteint 25%. Depuis 10 ans, le parti de Sébastien Kurz gouvernait avec les sociodémocrates, mais voilà, la droitisation est en marche et celle de l'Autriche fait de plus en plus penser à celle qui se répand en Europe centrale.
Sujet long à présent. Mercredi 2 novembre, après 5 semaines de procès, la cour d'assises spéciale de Paris condamne Abdelkader Merah à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes. On revient sur ce procès qui a suscité de nombreuses polémiques. « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère », s'exclame l'avocat de la défense, Éric Dupont-Moretti, lors du procès Merah. Derrière cette jolie rhétorique d'avocat transparaît la dimension symbolique d'un procès qui, dans la sémantique même de son appellation, « procès Merah », instaure le doute sur ce qu'on juge dans la salle Voltaire du Palais de justice de Paris. C'est un procès ultra sensible parce qu'il traite de l'horreur absolue, un homme qui assassine de sang-froid 7 personnes, sensible aussi parce qu'il se déroule après la vague d'attentats qui a frappé la France en 2015 et 2016, et parce qu'il appelle à la barre des victimes déchirantes et qu'il soulève la haine de l'opinion publique.
Et l'opinion publique, ou moins largement la partie civile, a fait appel au jugement du 2 novembre.
Tout à fait. Et ça illustre bien les débats, les désaccords autour du procès d'Abdelkader Merah qui nous incite, je crois, à nous interroger sur les fondements du droit et de la justice. Pour cela, je suis allée interroger Élise Jacquier, étudiante en master de droit judiciaire privé après une double licence de droit et philosophie, et lui ai demandé d'abord quel était le rôle de la justice.
Alors, en fait, pour parler de ce genre de problématique, il faudrait remonter à un auteur qui s'appelle Beccaria et qui a écrit, d'après beaucoup d'idées de Montesquieu, en fait, un ouvrage magnifique qui s'appelle « Des délits et des peines », que je conseille à tous nos auditeurs. Et en fait, dans cet ouvrage, Beccaria, il va vraiment parler de ce qu'apporte le procès pour la société, en fait. Parce que avant tout notre droit pénal moderne, on était dans un procès qui était très vengeur, en fait, qui venait apporter quelque chose aux victimes avec des peines spectaculaires, l'écartèlement, la torture, des peines de mort aussi qui étaient très violentes. Et Beccaria, il a mis en lumière que ce genre de peine n'était pas utile à la société, que ce qu'il fallait, c'était faire peur, mais faire peur dans une mesure qui devait être nécessaire, en fait. C'est une égalité entre le délit commis et la peine qui est encourue après. Et c'est ça qui est important dans ce procès, c'est qu'il y ait une égalité entre ce qui a été commis et la peine encourue.
La justice, ce n'est donc pas la vengeance, et le but n'est donc pas non plus de punir, mais bien de protéger la société. Sous cette lumière, on peut donc s'interroger sur le jugement rendu au procès Merah.
Abdelkader Merah, il a été condamné pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes, et les parties civiles voulaient le faire condamner pour complicité d'assassinat. Donc qu'est-ce que tu penses de ce jugement ?
C'est là que tout le jugement est intéressant, en fait, parce que tout l'enjeu de ce procès était dans le fait de ne pas tomber sur une rétribution de la peine des victimes. Et à partir de ce moment-là, les juges devaient vraiment s'intéresser aux faits, en fait. Qu'est-ce que Abdelkader Merah avait fait qu'est-ce qu'on pouvait retenir de l'incrimination? Parce qu'en fait, une incrimination en droit pénal, qu'est-ce que c'est? C'est un élément moral, une intention. Qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire? Et ça a été prouvé, son intention. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait factuellement? C'est-à-dire l'élément matériel, en fait, le délit matériel. Et là, c'est là que ça a posé problème pour la commission d'assassinat, c'est-à-dire que Abdelkader Merah n'a tué personne. La complicité d'assassinat ne pouvait être retenue du fait qu'il n'y avait aucun élément matériel qui corroborait ce genre d'incrimination. Ça.
On avait donc affaire ici à un procès difficile qui a été confié à une cour d'assises spéciale, réunissant non pas un jury citoyen mais des magistrats professionnels. C'est sur ce dernier point qu'Élise revient avec nous avant de conclure.
Alors déjà, on va faire un petit rappel historique parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est une cour d'assises spéciale. C'est quelque chose qui a été créé en 86 pendant un procès des terroristes d'Action Directe. Pendant ce procès d'Action Directe, en fait, tous les jurés ont reçu des menaces de mort et 5 d'entre eux ont décidé de ne pas venir se présenter au tribunal le lendemain. Et on a donc étendu avec une loi du 9 septembre 86 une juridiction d'assises spéciale qui était déjà existante et qui servait à juger les crimes commis par des militaires. Moi, je pense justement que cette cour d'assises spéciale était vraiment nécessaire pour ce procès en particulier, parce que justement, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, ça a été dit à la radio, à la télé. Et justement, le fait que ça ait été des magistrats, je pense que ça nous a permis aussi de garder une équité dans ce jugement, de garder une approche factuelle, une approche juriste en fait. Parce que le problème des jurés que l'on tire au sort parmi des personnes de la vie civile, c'est qu'ils n'ont aucune approche du droit et que sur des crimes de cette intensité et de cette importance aussi au regard social et de ce que ça apporte, il est important de garder aussi une vision distincte et assez éloignée aussi.
D'accord, et bien merci beaucoup Élise pour avoir répondu à mes questions.
On rappelle que le parquet général a fait appel au verdict de cette cour d'assises et qu'il y aura donc un nouveau procès Merah, mais qui vraisemblablement, à moins de nouvelles preuves, aboutira aux mêmes conclusions.